Cours de critique par le père Marie Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 23 octobre 1992.
Alors, nous allons regarder le squelette. La critique, ne vous inquiétez pas, surtout la première année, si de fait il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Le cours de critique est surtout pour la troisième année. Et je crois que c'est bon. Certains problèmes de critique. Alors, on suit, vous notez surtout la question des mots en première année. Vous savez bien qu'on doit toujours faire une espèce de petit dictionnaire philosophique, j'espère que ça avance, pour qu'on puisse donner aux premières années, il y a des mots clés philosophiques. Le dictionnaire de la langue, c'est très bien, mais c'est la soupe de toute l'année. Alors, c'est... Il y a tout y est. Il faut savoir, il y a un dictionnaire philosophique. Il devait y avoir un dictionnaire pour Saint Thomas. Les éditions du Cerf voulaient faire ça, mais pratiquement, on m'avait demandé de faire 100 mots. Je les ai faits. Et quand je les ai retrouvés dans le dictionnaire, j'ai vu que tout avait été changé. Et on m'a pas renvoyé mes fiches, parce qu'on aurait pu le reprendre. Mais alors c'est resté comme ça. Parce que c'est important. Il n'y a pas tant de mots, hein, centaines de mots, je crois, qui permettent de comprendre un langage qui est forcément propre à la philosophie, qui sont un langage commun du reste, qu'on trouve chez d'autres philosophes avec d'autres significations. Donc, pour que vous profitiez du cours de critique, notez ce que vous ne comprenez pas. Dans une certaine mesure, demandez-le à vos parrains respectifs. Parce que c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on progresse. Si on laisse trop tout passer, on ne progresse pas. Mais il y a une activité un peu différente pour la critique. Parce que on pâtit un peu plus en critique. La critique, c'est l'étude du comment de notre intelligence. Comment notre intelligence atteint-elle la vérité? C'est quand même très important. Et c'est l'aspect psychologique de la relecture de notre vie intellectuelle. Et nous devons, en tant que point de vue philosophique, dans la mesure où la philosophie est scientifique, on doit pouvoir découvrir à chaque instant où l'on en est et comment telle conclusion se rapporte à telle expérience. On doit pouvoir tout le temps justifier le point de vue philosophique. Tu dois toujours avoir une possibilité. Ou on ne peut pas justifier, on s'appuie sur l'autorité. Aristote dit ça. J'ai pas encore compris. Mais comme il le dit, et qu'il n'est pas bête, il doit y avoir quelque chose à découvrir. Thomas d'Aquin dit ça. Bergson dit ça. Merleau-Ponty dit ça. N'interroge plus. Parole de Merleau-Ponty qui est intelligent. Vous voyez, le dialecticien, celui qui est dans la dialectique, n'interroge plus. Alors pourquoi la dialectique n'interroge plus? Et pourquoi le philosophe réaliste interroge-t-il? Vous voyez, il faut découvrir les mœurs de notre vie philosophique. Il y a comme ça quelque chose qui doit émaner petit à petit de notre manière d'étudier. On n'a pas de méthode, mais on a un esprit. C'est mieux. Et on acquiert un habitus. Et l'habitus, c'est la méthode intérieure, avec toute la souplesse de l'intelligence. Une méthode, c'est jamais très souple. C'est un peu une espèce de prison. Alors, pouvez-vous préciser à nouveau, avec avec des exemples la différence entre expérience et expérimentation. Alors, je comprends que c'est quelque chose sur lequel on doit revenir tout le temps. C'est vrai, il y a quelques points sur lesquels vous devez tout le temps revenir. La différence, surtout si vous avez fait déjà des études scientifiques, la différence entre la pensée mathématique et la pensée philosophique, la différence entre la pensée logique et la pensée philosophique. Là, on doit y revenir tout le temps. La différence entre la pensée affective et la pensée philosophique. La différence entre la critique et la philosophie. Mais ça met du temps. Faut pas croire que tout de suite, on comprend. Alors, l'expérience au sens philosophique tel que nous l'a, c'est l'alliance de l'intelligence avec nos sensations. Je touche cette table, j'ai l'expérience que je la touche. C'est pas compliqué. Prenez tout simplement ça. C'est une expérience externe, puisque si je la touchais pas, j'aurais l'expérience de la voix. Mais autre chose est la voir, autre chose la toucher. Autre chose, la manger et la regarder. Parce que ce n'est pas très mangeable, ce serait un beefsteak assez dur. Le jour où il n'y a pas de beefsteak, il suffit de mettre des petits morceaux de bois. Alors on s'apercevrait que c'est bon un beefsteak. Très très vite, on aurait l'expérience. Oh, c'est dur, 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 pas mangeable. On serait tous malades. Bon, l'expérience de la vie normale, habituelle, quand vous voyez arriver un nouveau frère, le dernier arrivé, nouvelle tête, bon, vous l'accueillez tel qu'il est, sans a priori. Voyez, on lutte contre les a priori pour être devant la réalité telle qu'elle est. On reçoit quelqu'un. L'a priori consiste à avoir tout de suite une ressemblance. Ah, oh, ce qui ressemble à celui-là. Oh là 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 là. J'ai une triste expérience vis-à-vis de celui-là. Et immédiatement, je fais une ressemblance. Ça, c'est un a priori. Et on doit renvoyer promener ça pour vraiment avoir l'expérience de quelqu'un. Chacun est unique. Chacun est unique. Et on a comme ça des a priori affectifs terribles. Parce que ça nous limite, vous comprenez ? Ça nous limite terriblement. Chaque nouvelle personne qu'on connaît augmente notre champ d'action, notre champ de connaissance. C'est pour ça qu'on dit que les voyages forment la jeunesse. Alors, vous ne voyagez pas beaucoup pendant le noviciat, autant que possible. Ce n'est pas tellement bon. Ça fait partie des vieilles traditions. On fait son noviciat. Mais il y a des gens qui viennent de nouveau. Vous attirez. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ça attire. Alors, il y en a de nouveau qui arrive. Et la porte se ferme derrière. Pour qu'il ne retourne pas. Et s'il a envie de partir, mais du coup, tu restes un peu plus longtemps. Tu n'as pas encore expérimenté tout, du moins. Parce qu'on a, ce que disait Marthe Robin, c'est pas quand on fait une retraite, on a la tentation toujours de partir au bout d'une journée. Dire, oh, si c'est ça, c'est pas la peine. Alors ça, c'est l'expérience. L'expérimentation en science, c'est une sorte de vérification. Vous avez une hypothèse de recherche et une hypothèse se cherche et toujours voir quel est le lien de telle chose avec telle autre. L'hypothèse se cherche, par exemple, en psychologie, les liens entre l'irascible et le concupiscible. Comment apaiser l'irascible par le concupiscible? Le gosse aime le sucre. Alors on lui promet un bonbon et tout de suite, il pleure bleu. Il y a des gens qui ont besoin de sucette toute leur vie. Là, il y a la sucette de chacun. On mettrait ça dans le dos. Hein. Dans le cas où il pleure, telle sucette, lui. Et c'est un examen de conscience merveilleux de découvrir les sucettes qu'on a besoin. Il faut que progressivement, on les évacue pour qu'on n'en ait plus besoin. Parce que c'est un signe de... Vous voyez, c'est un signe un peu d'infantilisme. La sucette. Mais pendant le temps de carême, on supprime le chocolat. Pour beaucoup, c'est la sucette. On supprime telle ou telle chose. Alors c'est rude. Alors on cherche des compensations. Et des relations. Quand je suis triste, il y a telle chose qui me console. Compensation. Et on vérifie ça. Alors ça peut aller très loin, au point de vue scientifique, mais c'est tout le temps une vérification. L'expérimentation est toujours une vérification. Tandis que l'expérience n'est pas une vérification. C'est une découverte. C'est pas la même chose. Vérifier et découvrir. Pourquoi? Parce que vérifier présuppose une hypothèse. Découvrir présuppose qu'il n'y a pas d'a priori. Et l'hypothèse, pour celui qui expérimente, est un a priori. Vous découvrez quelque chose de nouveau. Ça, c'est l'expérience. L'expérimentation, c'est justement, on a une hypothèse de recherche. Il semble bien que tel produit va avoir telle réaction. Oui, l'expérimentation dans tous les domaines, point de vue scientifique. Et c'est intéressant, du reste, de voir ce que c'est que l'expérimentation. Est-ce que l'expérimentation nous permet de découvrir la vérité? Elle permet de découvrir que telle hypothèse n'est pas erronée, mais pas plus. C'est curieux. Elle ne peut pas dire telle hypothèse est vraie. Vraie au sens fort. Tandis que l'expérience me permet de voir le point de vue de la vérité. En prenant vérité au sens le plus fort, c'est-à-dire ce que je pense, ce que j'ai élaboré, est conforme à la réalité. Mais l'expérimentation ne me met pas directement en contact avec la réalité. Parce que l'expérimentation, je fais un tissu de relations qui me permettront de voir si l'hypothèse que j'ai faite sera conforme à ce tissu ou non. C'est très très curieux l'expérimentation. La méthode expérimentale, c'est comme Bernard. Faut lire ce petit livre aussi, ça fait partie au point de vue critique. Alors, il y a cela à voir, il y a la différence entre la loi et la découverte d'un principe. Ça aussi, il faut revenir tout le temps là-dessus. Mais on verra ça progressivement. La conclusion scientifique et la conclusion philosophique. Il y a des points comme ça où il faut bien saisir la différence. L'abstraction métaphysique et l'abstraction mathématique. L'être mathématique et l'être réel. du jugement. Et je vous disais qu'il fallait prendre le jugement dans le sens grec, le discernement krenein. Et pas seulement porter une sentence. Discerner. Grâce au discernement, je supprime de faux alliances et je réconcilie de faux séparations. déterminée. Celui qui est sans couleur, elle ferait une boule de sans couleur. Je m'abstiens. Je vote, mais je m'abstiens. Je suspends mon jugement. S'abstenir, c'est suspendre mon jugement. Je n'ai pas d'éléments suffisants pour dire oui ou non. Alors, je m'abstiens. S'abstenir, ce n'est pas nier. Et dire ceci est égal ceci, c'est nier que est n'a pas de signification. Tandis que quand on dit la mise entre parenthèses, ah, je ne veux pas m'en occuper, ça a une signification pour certains, mais moi je ne veux pas m'en occuper. Mais on passe très vite de l'abstention à la négation. Très vite. Et l'interprétation qu'on fait dans les votes en France, on considère pour rien ceux qui s'abstiennent, aucun. Alors que c'est pas juste. Il devrait y avoir la possibilité d'un vote d'abstention et qui fait changer la moyenne. Vous voyez, en France, c'est un manque de respect vis-à-vis de l'individu et de la personne. On peut très bien, dans certains cas, dire « je m'abstiens », c'est-à-dire « je considère que je ne peux pas voter sur cela parce que la proposition n'est pas bien faite ». Devant certaines propositions, je m'abstiens. Je ne peux dire ni oui ni non. Alors, on n'accepte pas ça. C'est très grave. N'accepte pas donc que quelqu'un puisse, à l'égard d'une proposition, dire cette proposition est mal présentée. Donc là, on vous lèse. On ne respecte pas la dignité d'un vote. C'est comme ça que progressivement on arrive à fausser les consciences. Alors vous voyez, trois positions. Ceci est, j'en considère la signification. Profonde est. Je mets entre parenthèses le est ou je le nie. C'est très curieux, hein, que le jugement a trois positions. Il y a affirmation et négation, mais il y a quelque chose de plus. Il y a affirmation et négation, et puis il y a le fait de dire je n'accepte. Cette proposition, elle est mal faite. Et c'est le fameux problème logique de la supposition. Et la supposition, c'est dire que le sujet qu'on présente, non supponit, l'attribue. Alors, on ne refuse pas, on n'accepte pas, on dit, on ne peut pas voter. Voter sur telle proposition. Évidemment, il faut des gens intelligents pour ça. Mais c'est normal. On regarde la signification, on adhère ou on n'adhère pas, ou on refuse. Alors, voyez, dire ceci et signifie rien pour moi, ça se ramène à ceci. Ça veut dire qu'on y est. Alors que, dans la phénoménologie, si on regarde attentivement la mise entre parenthèses de l'être, c'est tout simplement une métamathématique. Le mathématicien ne regarde pas le jugement d'existence, mais ne le nie pas. Il dit dans mon système mathématicien, la signification du verbe être n'intervient pas. Il n'a pas besoin d'intervenir. On ne le nie pas. C'est la première remarque qu'on doit faire, qui est très importante par rapport au jugement d'existence. Alors, si je dis au contraire, en philosophie réaliste, le jugement d'existence, ceci est. Et le premier jugement, c'est le jugement fondamental de toute la philosophie. je niais. Alors si je nie ceci et si je nie et, ou si je le mets entre parenthèses, si je le mets entre parenthèses, je reste dans l'ordre du possible. Ceci est fait sortir de l'ordre possible. Il y a donc l'ordre du possible. La mise entre parenthèses de et. Ou au contraire, je le rejette, la négation. Alors voyez, c'est là où on voit qu'il y a un jugement qui porte sur le possible. Le jugement qui porte sur le possible, c'est quoi? C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Ceci peut exister, mais je n'en sais rien. Ceci existe, ceci n'existe pas. Alors c'est très grave d'identifier la mise entre parenthèses avec la négation. Ça, c'est le serpent qui mord sa queue. Parce que si vous faites ça, vous supprimez toute la recherche scientifique. La recherche scientifique est au niveau du possible. En mathématiques, c'est très net. Et l'application, c'est aussi très net. Toutes les hypothèses qu'on peut faire, c'est de l'ordre du possible. Donc, je vois, et ça, il y a une mise... Il y a quelque chose qu'on doit mettre très en lumière, c'est que le jugement d'existence, ceci est fondamental à toute la philosophie. C'est le premier jugement. Alors, comment expliquer ce premier jugement? Et on doit l'expliquer aujourd'hui. Je vous affirme que quand on dit devant des intellectuels que le jugement d'existence est le fondement de toute la philosophie, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas. C'est là où Heidegger a raison en disant « il y a l'oubli de l'être ». On ne sait plus ce que c'est. Et pour nous, dans une philosophie réaliste, et donc dans une critique d'une philosophie réaliste, on met en lumière ce jugement d'existence comme le jugement fondamental et premier sur lequel tout l'édifice repose. Et donc, si on ne voit pas ce jugement, l'édifice philosophique qu'on édifie, on n'en voit pas le sens. Alors, comment expliquer ce jugement d'existence? L'originalité de ce jugement d'existence, ceci est. J'ai dit précédemment que avant le jugement, il y a l'appréhension. L'appréhension saisit quoi? L'appréhension saisit l'acuité. C'est-à-dire la détermination essentielle d'une réalité. Ça saisit homme. Un homme. L'acuité, c'est la détermination essentielle de la réalité. Et les déterminations essentielles, Aristote les a dénombrées dans les 10 prédicaments. Vous devez le savoir par cœur, les 10 prédicaments. Ça veut dire attribuer. Hein. Les catégories, en grec, c'est la même chose. Catégorie et prédicament. C'est le latin et le grec. Et le français qui fait la synthèse. Alors, prédicament, entre les 10 prédicaments, Pierre est un homme. Substance. Quantité. Il pèse 100 kilos. Ça, c'est visible. Il a Il est intelligent, qualité. Il est en relation avec tel ou tel autre. Il est capable d'agir, l'action. Il est capable de bâtir. Il bâtit admirablement. Il y a des gens qui bâtissent très difficilement, immédiatement, leur irascible est là. Il y a des bâtisse. Ils sont voués à bâtir toute leur vie. Il y a le temps. Il agit à tel moment. C'est une détermination. Il y a le lieu. Il y a le situs. Il est situé à tel endroit par rapport à un ensemble, par rapport à un tout. On est toujours situé par rapport à un tout. On est au centre du tout, le nombril du tout, ou on est périphérique. Et puis l'habitus. L'habitus, c'est quand j'use, quand je me sers de quelque chose, d'un habit, d'une pipe, je transforme cet habit et je transforme ma pipe. Devient ma pipe. Tandis que quand vous achetez, vous ne dites pas « Je vais bien acheter ma pipe. » Vous vous êtes servi pendant un an cette pipe. Ça devient votre pipe. Et si vous la cassez, vous savez, très grave. Voyez comment ça se transforme. Ceci est ou ceci, c'est la même chose. Oui, c'est terrible d'avouer que ceci est et que ceci est la même chose. Ça prouve qu'on n'a pas saisi ce que c'est que le jugement. Ça prouve qu'on est resté uniquement dans l'ordre des déterminations. Le verbe, être, se donne d'abord pour moi sous la forme d'un verbe. Le verbe être. Et je le pose comme un nom. Qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est très curieux, ça. Comment votre intelligence saisit-elle le verbe ? L'action. Puisque le verbe être exprime une action. Parce que celui qui existe, il se manifeste à travers une action. Je marche. Je suis état. Je suis dans cet état particulier, étant marchant. Il faut donc essayer de comprendre ce passage de l'appréhension au jugement par la saisie du verbe. Et le verbe est quelque chose d'irréductible à l'acuité. Il y a donc pour le jugement quelque chose de nouveau qui ne peut pas se ramener à l'acuité. L'acuité comme telle est au-delà de la vérité. Il n'y a pas de vérité dans l'acuité. Je sais si ou je ne sais pas. Homme, est-ce que c'est vrai, homme ? Ce n'est pas la question. C'est la signification de homme qui m'intéresse. Tandis que dès qu'il y a le verbe, dès qu'il y a le jugement, alors la vérité apparaît, ou l'erreur. Ça revient au même, vérité ou erreur. Donc, il y a quelque chose de nouveau chaque fois que je juge. La saisie du verbe. Et du verbe premier, celui qui est présent à tous les autres verbes, le verbe être. J'exprime en disant ceci est. J'exprime que ceci a une autonomie dans son existence. Il est. Quand je dis ceci, uniquement l'acuité. Ceci, ça peut être la vache, c'est l'éléphant, ça peut être le petit bambin, le petit caillou, ça peut être le petit enfant. Ceci, ceci. C'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi déterminé. C'est chaque réalité déterminée. Et ça peut être même quelque chose de purement accidentel. Ceci pour regarder la relation. Et je qualifie ce ceci par le verbe. Et c'est ce qu'on appelle en logique l'attribution. J'attribue à ceci être. Mais en attribuant à ceci être, il y a quelque chose de très particulier. Parce que selon le langage, être est relatif à ceci. Selon la réalité, le ceci est relatif à l'être. Je vois donc que le langage inverse ce qu'il y a de fondamental dans l'expérience que j'ai de la réalité. C'est extrêmement curieux, ça. Puisque dans la réalité, ceci, s'il n'existe pas en lui-même, s'il n'a pas d'exister en lui-même, c'est de l'ordre du possible, c'est tout. C'est parce que j'imagine ceci. Et qu'en tant que je ne peux pas dire qu'il existe, je l'imagine. Donc, le verbe être est capital dans la réalité. Il est premier au plan métaphysique. Être est avant ceci. Au plan logique, au plan du langage, c'est l'inverse. Alors pourquoi ça ? Grande question. inverse-t-il la réalité? Posez-vous la question, ça vaut la peine. Parce que la solution permet de dire qu'il n'y a pas de philosophie du langage. Il y a une critique du langage, mais pas de philosophie. Le langage est toujours quelque chose de second, et jamais quelque chose de premier. Sauf la parole de Dieu. Ah, alors ça m'éclaire sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est créatrice. Mon langage n'est pas créateur. C'est pas parce que je dis un individu, une espèce d'imbécile, qui devient un imbécile. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont très peur du langage, de plus en plus. Et que du fait qu'on dit quelque chose, ça se réalise. Mais c'est pas vrai. Le langage n'est pas créateur. Il n'y a que la parole de Dieu qui est créatrice. La parole de Dieu est antérieure à ce qu'elle signifie. Tandis que mon langage est postérieur à ce qu'il signifie. Ah, alors je commence à comprendre pourquoi il y a inversion. Le langage est toujours second. Il n'est jamais premier. Dans l'ordre de la connaissance. Si le langage est toujours second, et que la réalité est antérieure au langage, c'est pas étonnant que dans la proposition, ceci est, tout est inversé. Parce que ceci apparaît comme premier, alors qu'en réalité, il est toujours second. C'est la réalité qui devrait parler. Or, comme elle ne parle pas, c'est moi qui parle. Mais je parle en son nom. Et je parle toujours en inversant l'ordre. Vous voyez cette chose curieuse, hein, que tout de suite le jugement me pose. Du côté réalité, le verbe être est premier. Du côté langage, le verbe être est second. Alors ça vous fait comprendre des tas de choses. Parce que si vous êtes entièrement dépendant du langage, et il y a des gens qui sont entièrement dépendants du langage, qui ne regardent que le langage, et qui disputent indéfiniment par rapport au langage. Vous avez dit ceci, mais attention, quoi. J'ai dit ceci en fonction d'exprimer quelque chose. C'est pour ça que saint Thomas dit qu'il ne faut pas discuter sur le langage. C'est une perte de temps. Il faut discuter sur les réalités. Alors vous voyez que tout de suite, le premier jugement, ceci est, ne peut se comprendre que dans une lumière métaphysique.